Germaine, chapitre 6. Lettre de Corfou. Le docteur Lebré à Madame Chermidy. Corfou, 20 avril 1853. Chère Madame, je ne prévoyais point, le jour où j'ai pris congé de vous, que notre correspondance serait si longue. Don Diego ne s'y attendait pas non plus. Si j'avais pu le prévenir, je ne sais s'il eût pris la résolution héroïque de se priver de vos lettres et de vivre sans vous écrire. Mais tous les hommes sont sujets à l'erreur, les médecins surtout. Ne montrez pas cette phrase à mes confrères. Nous avons fait un sot voyage de Malte à Corfou, sur un bâtiment fort sale, dont la cheminée fumait horriblement. Le vent était contre nous, la pluie nous défendait souvent de monter sur le pont, et les vagues pleuvaient jusque dans nos cabines. Le mal de mer n'a épargné que l'enfant et la malade. Il y a des grâces d'État pour ceux qui entrent dans la vie et pour ceux qui vont en sortir. Nous avions pour toute société une famille anglaise, de retour des Indes. Un colonel au service de la compagnie et ses deux filles, jaunes comme du cuir de Russie. Il n'y a que le vin de Bordeaux qui gagne à voyager si loin. Ces demoiselles ne nous ont pas honorés d'une parole. Ce qui les excuse un peu, c'est qu'elles ne savaient pas le français. À la moindre éclaircie, elles montaient sur le pont avec leurs albums pour dessiner des paysages semblables à des plum pudding. Après une éternelle traversée de 5 jours, le bateau nous a mis à bon port. Nous n'avons pas même eu la distraction d'un naufrage. Le chemin de la vie est pavé de déceptions. En attendant que nous ayons trouvé un gîte à la campagne, nous sommes logés dans la capitale de l'île, Hôtel Victoria. Nous comptons en sortir à la fin de la semaine, mais je n'ose pas affirmer que nous en sortirons tous sur nos jambes. Ma pauvre malade est au plus bas. Le voyage l'a plus fatiguée que si elle avait eu le mal de mer. Madame de Villanera ne la quitte pas une seconde. Don Diego est admirable. Moi, je fais tout mon possible, c'est-à-dire fort peu de choses. Il est inutile d'essayer un traitement qui ajouterait aux souffrances sans profit pour la guérison. Que vous êtes heureuse, madame, d'avoir une beauté qui se porte si bien. Si cette crise n'est pas la dernière, je tenterai de l'ammoniac ou de l'iode. L'iode réussit dans certains cas. Messieurs Piori et Chartroul l'emploient avec succès. Vous seriez bien aimable de nous envoyer l'appareil du docteur Chartroul et une provision de cigarettes iodées. Tout cela se trouve à la pharmacie du Blanc, rue du Temple, auprès du boulevard. L'ammoniac a du bon aussi, mais le seul remède sur lequel on puisse compter sérieusement, c'est un miracle. Ainsi donc, vivez en paix, aimez-nous un peu et aidez-nous à faire notre devoir jusqu'au bout. Le vieux Gilles, que la comtesse avait amené pour la servir, a pris les fièvres en Italie, quoique nous ne soyons pas dans la saison des fièvres. C'est un malade de plus et un serviteur de moins. La joie et la santé ont un magnifique représentant dans la maison. C'est le petit Gomez. Le jour où vous le reverrez, vous serez bien heureuse. Il grandit à vue d'œil, et je crois, Dieu me pardonne, qu'il embellit. Il sera moins Villanera qu'on ne pensait d'abord. Au fait, ce serait bien le diable s'il ne tenait pas un peu de sa mère. Il n'est plus sauvage du tout. Il se laisse embrasser, il embrasse, il donne du bec contre tous les visages avec une impétuosité qui serait inquiétante chez une petite fille. Don Diego est en pourparlers avec un descendant des Doges pour une maison qui lui conviendrait assez. La campagne est divisée en une multitude de propriétés agréables, ornées de châteaux qui s'écroulent. J'ai visité quelques jardins, et ils sont généralement plus habitables que les maisons attenantes. Il y a de la ferme, du château et de la chaumière dans ces taudis aristocratiques qui gardent un air de grandeur au milieu de leur délabrement. Si nous louons la Villa Dandolo, nous n'y serons peut-être pas mal. Il suffira de poser quelques carreaux aux fenêtres. L'exposition est admirable, au midi, sur la mer. Un jardin hérissé de belles choses. les voisins sont des nobles, quelques-uns parlent français, dit-on, mais qui sait si nous aurons le temps de faire leur connaissance. Je ne regretterai pas le séjour de la ville, quoiqu'on y vive assez bien. Elle est jolie et me rappelle Naples en quelques endroits. L'esplanade, le palais du Lord Commissaire et les environs forment une ville anglaise. Les Anglais ont construit aux frais des Grecs des fortifications gigantesques qui font de la place un petit Gibraltar. J'assiste tous les matins aux manœuvres d'un régiment d'Écossais dont les cornemuses font mon bonheur. La ville grecque est ancienne et curieusement bâtie. Maisons hautes, petites arcades et une jolie tête à chaque fenêtre. Le quartier juif est hideux, mais il y aurait des perles dans ce fumier pour le crayon de Gavarni. La population est grecque, italienne, juive, maltaise et travaille assez activement à devenir anglaise. Nous avons un théâtre où l'on donne la Jeanne d'Arc du maestro Verdi. J'y suis allée un soir que la malade avait moins de 120 pulsations à la minute. À la fin du premier acte, toute l'assemblée se lève respectueusement tandis que l'orchestre joue le God Save the Queen. C'est un usage établi dans toutes les possessions anglaises. Ne vous étonnez pas qu'on représente la mort de Jeanne d'Arc devant un public anglais. L'auteur du libretto a pris soin de modifier l'histoire. Jeanne d'Arc défend la France contre des ennemis quelconques, des Turcs, des Abyssins ou des Champenois. Elle porte une cuirasse en papier d'argent et elle agite un drapeau grand comme un éventail jusqu'au moment où un héros arrive sur la scène et dit au roi « Rotto el nemico et Giovanna è spinta ». On apporte l'héroïne sur des coussins. Une écharpe tachée de rouge indique qu'elle est blessée à mort. Elle se relève avec peine, chante un air du haut de sa tête et expire aux applaudissements de la salle. Tous les habitants de Corfou sont persuadés que Jeanne est morte d'une blessure et d'une roulade. Le comte m'a laissé aller seul au théâtre, et pourtant vous savez s'il raffole de Verdi. N'est-ce pas à une représentation d'Hernani que ses yeux ont rencontré les vôtres pour la première fois? Mais le pauvre garçon s'immole littéralement à son devoir. Quel mari, madame, pour celle qui sera sa femme définitive! Les journaux nous ont apporté des nouvelles de Chine que vous avez dû lire avec autant d'intérêt que nous. Il paraît que la nation la plus camarde de la terre a traité légèrement deux missionnaires français et que la naïade s'est mise en route pour punir les coupables. Si la naïade n'a pas changé de commandant, nous attendrons avec impatience les nouvelles de l'expédition. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Je souhaite toutes les prospérités imaginables à mes amis, sans toutefois demander la mort de personne. Les Chinois sont, dit-on, de mauvais artilleurs, quoiqu'ils se vantent d'avoir inventé la poudre. Cependant, il ne faut qu'un boulet clairvoyant pour faire bien des heureux. Adieu, madame. Si je vous écrivais comme je vous aime, la lettre ne finirait pas. Mais, après le plaisir de causer avec vous, il faut me rendre au devoir qui m'appelle dans la chambre voisine. Plaisir, devoir. Deux chevaux bien difficiles à atteler ensemble. Mais je fais de mon mieux, et si je n'arrive pas à concilier toutes choses, c'est qu'un homme n'a pas ses coudées franches entre l'enclume et le marteau. Aimez-moi si vous pouvez, plaignez-moi si vous voulez, ne me maudissez pas, quoi qu'il arrive, et si je vous adresse par le prochain courrier une lettre cachetée de noir, faites-moi l'honneur de croire fermement que je n'ai aucun droit à votre reconnaissance. Je baise la plus jolie main de Paris. Charles Le Bris, DMP. La comtesse douairière de Villanera à Madame de la Tour d'Ambleuse, Villa Dandolo, 2 mai 1853. Chère duchesse, je n'en peux plus, mais Germaine va mieux. Nous avons tous déménagé ce matin, ou plutôt c'est moi qui les ai déménagés. J'avais les caisses à faire, la malade à envelopper dans du coton, le petit à surveiller, la voiture à trouver et presque les chevaux à atteler. Le comte n'est bon à rien. C'est un talent de famille. On dit en Espagne « maladresse de Villanera ». Le petit docteur tourbillonnait autour de moi comme la mouche du coche. J'ai dû le faire asseoir dans un coin. Quand je suis pressée, je ne peux pas souffrir l'empressement d'autrui. Qui m'aide me gêne. Et cette âne de Gilles, qui s'est avisée de prendre la fièvre, quoique ce ne fût pas son tour. Je vais le renvoyer à Paris pour qu'il guérisse, et je vous prie de m'en chercher un autre. J'ai tout fait, tout prévu, tout arrangé pour le mieux. J'ai trouvé le moyen d'être à la fois dedans et dehors, en ville et à la maison. Enfin, à 10 heures, fouette cochée. Heureusement, les routes sont magnifiques, le macadam des boulevards. Nous avons roulé sur le velours jusqu'à notre bicoque, et nous y voici. J'ai déballé mes gens, ouvert mes paquets, fait mes lits, apprêté le dîner avec un cuisinier indigène qui voulait tout poivrer, même la soupe au lait. Ils ont mangé, tourné, promené. Ils dorment enfin. Et je vous écris au chevet de Germaine, comme un soldat sur un tambour le soir de la bataille. La victoire est à nous, foi de vieux capitaine. Notre fille guérira, ou elle dira pourquoi. Elle m'a pourtant fait passer 15 nuits désagréables dans cette ville de Corfou. Elle ne se décidait pas à dormir, et j'avais beau la bercer comme un enfant, elle mangeait uniquement pour me faire plaisir. Rien ne lui disait. Et quand on ne mange pas, adieu les forces. Elle n'avait plus qu'un souffle de vie, qui semblait à chaque instant prêt à s'envoler. Mais je faisais bonne garde. Ayez courage. Elle a dîné ce soir, elle a bu 2 doigts de vin de Chypre, et elle dort. J'avais souvent entendu dire qu'une mère s'attache à ses enfants en raison du mal qu'ils lui ont fait. Je ne le savais point par expérience. Tous les Villanera, de père en fils, se portent comme des arbres. Mais depuis que vous m'avez confié le pauvre corps de cette belle âme, depuis que je fais le guet autour de notre enfant pour défendre à la mort d'approcher, depuis que j'ai appris à souffrir, à respirer, à suffoquer avec elle, je sens mon cœur. Je n'étais mère qu'à moitié, tant que je n'avais pas éprouvé le contre-coup des douleurs d'autrui. Je vaux mieux, je suis meilleure. Je monte en grade. C'est par la douleur que nous nous approchons de la Mère de Dieu, ce modèle de toutes les mères. Ave Maria, Mater Dolorosa. Ne crains rien, ma pauvre duchesse, elle vivra. Dieu ne m'aurait pas donné ce profond amour pour elle s'il avait résolu de l'arracher de ce monde. Celui qui gouverne les cœurs mesure la violence de nos sentiments à la durée de ce que nous aimons. Et j'aime notre fille, comme si elle devait être éternellement à nous. La providence se joue de l'ambition, de l'avarice et de toutes les passions humaines, mais elle respecte les affections légitimes. Elle y regarda 2 fois avant de séparer ceux qui s'aiment pieusement dans le sein de la famille. Pourquoi m'aurait-elle attachée si étroitement à notre Germaine si elle avait eu le dessein de la tuer dans mes bras? Ce serait un jeu cruel et indigne de la bonté de Dieu. D'ailleurs, l'intérêt de notre race est lié à la vie de cet enfant. Si nous avions le malheur de la perdre, Don Diego se mésallierait un jour ou l'autre. Saint Jacques, à qui nous avons bâti 2 églises, ne permettra jamais qu'un nom comme le nôtre soit porté en ferronnière par Madame Chermidy. Je n'espère rien du docteur Lebris. Les savants ne s'entendent pas à guérir les malades. Le véritable médecin, c'est Dieu dans le ciel et l'amour sur la terre. Les consultations, les remèdes et tout ce qu'on achète à prix d'argent n'augmentent pas la somme de nos jours. Voici ce que nous avons imaginé pour obtenir qu'elle vive. Tous les matins, mon fils, mon petit-fils et moi, nous prions Dieu de prendre sur notre vie pour ajouter à celle de Germaine. L'enfant joint ses mains avec nous. C'est moi qui prononce la prière, et le ciel sera bien sourd s'il ne nous entend pas. » Don Diego aime sa femme, je vous l'avais bien dit. Il l'aime d'un amour pur, dégagé de toutes les grossièretés terrestres. S'il l'aimait autrement, dans l'état où elle est, il me ferait horreur. Il a pour elle cette adoration religieuse qu'un bon chrétien voue à la sainte de son église, à la vierge de sa chapelle, à l'image chaste et voilée qui rayonne au fond du sanctuaire. Nous sommes ainsi faits, nous autres Espagnols. Nous savons aimer simplement, héroïquement, sans aucun espoir mondain, sans autre récompense que le plaisir de tomber à genoux devant une image vénérée. Germaine n'est pas autre chose ici-bas, la parfaite image des saintes du paradis. Quand saint Ignace et ses glorieux compagnons s'enrôlèrent sous l'étendard de la Mère de Dieu, ils donnèrent à tous les hommes l'exemple chevaleresque de l'amour pur. Lorsqu'elle sera guérie, ah, nous verrons. Attendez seulement que la pauvre petite Vierge pâle ait repris les couleurs de la jeunesse. Aujourd'hui, son corps n'est qu'une cage de cristal transparent, avec une âme au fond. Mais lorsqu'un sang régénéré coulera dans ses veines, quand l'air du ciel réjouira sa poitrine, quand les parfums généreux de la campagne parleront à son cœur et feront battre ses tempes, quand le pain et le vin, ces présents de Dieu, auront réparé ses forces, quand une vigueur impatiente la fera courir à perte d'haleine sous les grands orangers du jardin, alors elle entrera dans une beauté nouvelle. Et Don Diego a des yeux. Il saura faire une différence entre ses amours d'autrefois et son bonheur présent. Je n'aurai pas besoin de lui montrer combien une beauté noble et chaste, rehaussée de tout l'éclat de la race et de toute la splendeur de la vertu, est supérieure aux agréments effrontés d'une rouée. Il est en bon chemin. Depuis tantôt 4 mois que nous avons quitté Paris, il n'a ni écrit ni reçu une lettre. L'oubli se fait dans son cœur, loin de l'indigne qui le perdait. L'absence qui fortifie les passions honnêtes tue en un rien de temps celle qui ne subsistait que par l'habitude du plaisir. Peut-être aussi notre Germaine se laissera-t-elle gagner à la contagion de l'amour. Jusqu'à présent, elle n'aime que moi de toute la famille. Je ne parle pas du petit marquis. Vous savez qu'elle l'a adopté dès le premier jour. Mais elle témoigne à mon pauvre fils une indifférence qui ressemble bien à la haine. Elle ne le maltraite plus comme autrefois, et elle subit ses soins avec une sorte de résignation. Elle souffre sa présence, elle ne s'étonne plus de le voir auprès d'elle, elle s'accoutume à lui. Mais il ne faut pas de bien bons yeux pour lire sur son visage une sourde impatience, une haine domptée qui se révolte par instants. Peut-être même le mépris d'une honnête enfant pour un homme qui a fait des fautes. Hélas, ma pauvre amie, l'indulgence est une vertu de notre âge, les jeunes ne la pratiquent pas. Cependant, je dois reconnaître que Germaine dissimule avec soin ses petits ressentiments. Sa politesse avec Don Diego est irréprochable. Elle cause avec lui des heures entières sans se plaindre de la fatigue. Elle l'écoute parler. Elle répond quelquefois. Elle accueille ses tendresses avec une douceur froide et résignée. Un homme moins délicat ne s'apercevrait pas qu'il est haï. Mon fils le sait et pardonne. Il me disait hier, « Il est impossible de détester ses amis avec plus de charme et de bonté. Elle est l'ange de l'ingratitude. » Comment tout cela finira-t-il? Bien, croyez-moi. J'ai confiance en Dieu. J'ai foi dans mon fils et bon espoir pour Germaine. Nous la guérirons, même de son ingratitude, surtout si vous venez nous y aider. J'apprends que le duc marche comme un grand garçon dans le sentier de la vertu et que les pères le proposent en exemple à leur fils. Si vous pouviez prendre sur vous de le quitter pour 1 mois ou 2, vous seriez reçu à bras ouverts. Dans le cas où le charmant converti voudrait aussi prendre l'air de la campagne, nous avons quelque chose à louer dans le voisinage. À bientôt donc, mon excellent ami, chère sœur de mes tendresses et de mes afflictions. Je vous aime de plus en plus, à mesure que notre fille me devient plus chère. La distance qui nous sépare ne saurait refroidir une si bonne amitié. Nous ne nous voyons plus et nous ne nous écrivons guère, mais nos prières se rencontrent tous les jours au pied du trône de Dieu. Comtesse de Villanera. Postscriptum. N'oubliez pas mon domestique, et surtout qu'il soit jeune. Nos Mathusalem de l'hôtel Villanera ne s'acclimateraient pas ici. Germaine à sa mère. Villa Dandolo, 7 mai 1853. Ma chère maman, le vieux Gilles qui vous remettra cette lettre vous dira comme on est bien ici. Ce n'est pas à Corfou qu'il a pris les fièvres, c'est dans la campagne de Rome. Ainsi donc, n'ayez point de soucis. J'ai été assez malade depuis ma dernière lettre, mais ma seconde mère a dû vous dire que j'allais beaucoup mieux. Monsieur de Villanera vous a peut-être écrit aussi. Je ne lui demande pas compte de ses actions. Moi, je suis bien assez forte depuis quelque temps pour noircir 4 pages de papier. Mais croiriez-vous que le temps me manque? Je passe ma vie à respirer. C'est une occupation bien agréable qui me prend 10 ou 12 heures par jour. Pendant cette crise que j'ai traversée, j'ai beaucoup souffert. Je ne me souviens pas d'avoir eu aussi mal à Paris. Croyez que bien des gens à ma place auraient souhaité la mort. Cependant, je me suis cramponnée à la vie avec une obstination incroyable. Comme on change! Et d'où vient que je ne vois plus les choses du même œil? C'est sans doute parce qu'il eût été trop triste de mourir loin de vous, sans que vos chères mains fussent là pour me fermer les yeux. Au reste, les soins ne m'ont pas manqué. Si j'avais succombé, comme le docteur s'y attendait un peu, vous auriez eu une consolation. Le plus triste, lorsqu'on apprend de loin la mort de ceux qu'on aime, c'est de penser qu'ils n'ont pas été soignés comme il le fallait. Quant à moi, rien ne me manque, et tout le monde est bon pour moi, même monsieur de Villanera. Vous vous direz cela, ma chère maman, s'il m'arrive quelque malheur. Peut-être aussi l'amitié et la compassion de ceux qui m'entourent ont-elles contribué un peu à me rattacher à la vie. Le jour où j'ai pris congé de vous et de mon père, j'ai dit adieu à tout. Je ne savais pas que j'emmenais avec moi une véritable famille. Le docteur est parfait. Il me traite comme s'il espérait me guérir. Madame de Villanera, la vraie, est une autre vous-même. Le marquis est un excellent petit homme. Le vieux Gilles a été plein d'attention. Je n'ai pas voulu attrister tous ces gens-là par le spectacle de mon agonie. Et voilà comment je me suis tirée d'affaire. Tant pis pour ceux qui comptaient sur ma mort. Ils ont bien le temps d'attendre. Vous m'avez recommandé de vous décrire notre maison, pour que votre pensée sache où me trouver lorsqu'il lui plaît de me faire une visite. Monsieur de Villanera, qui dessine très bien pour un grand seigneur, vous enverra le plan du château et du jardin. J'ai pris sur moi de lui demander cette grâce. Il fallait bien que cela fût pour vous. En attendant, contentez-vous de savoir que nous habitons une ruine des plus pittoresques. De loin, la maison ressemble à une vieille église démolie sous la Révolution. Je ne voulais pas croire qu'on pût se loger là-dedans. On arrive au perron par 5 ou 6 escaliers praticables aux voitures, avec un pavé inégal et des rampes tant soit peu ébréchées. Tout cela tient ensemble par la force de l'habitude, car il y a beau temps que le ciment n'y est plus. Les giroflées et les plantes grimpantes se glissent dans toutes les crevasses, et le chemin sent bon comme un jardin. La maison est au milieu des arbres, à 1/4 d'heure du village le plus prochain. Je ne sais pas encore bien précisément de combien d'étages elle se compose. Les chambres ne sont pas toutes les unes sur les autres. On dirait que le second a glissé jusqu'au rez-de-chaussée dans un tremblement de terre. D'un côté, on entre de plein pied, de l'autre, on descend en casse-cou. C'est dans ce tohu-bohu qu'il faut chercher votre fille, ma chère maman. Je m'y cherche quelquefois moi-même, et je ne m'y trouve pas toujours. » Nous avons au moins 20 chambres inutiles et une magnifique salle de billard où les hirondelles font leur nid. J'ai fait laisser en paix les nids d'hirondelles. Que suis-je ici moi-même? Un pauvre petit martinet chassé par le froid. Ma chambre est la mieux close de toute la maison. Elle est grande comme la chambre des députés et peinte à l'huile du haut en bas. J'aime mieux cela que du papier. C'est plus propre et surtout plus frais. Monsieur de Villanera m'a fait apporter de Corfou un mobilier tout neuf de fabrique anglaise. Mon lit, mes chaises et mes fauteuils se promènent à l'aise dans cette immensité. La bonne comtesse couche dans une pièce voisine, auprès du petit marquis. Quand je dis qu'elle y couche, c'est pour ne pas la mettre en colère. Je la vois à mes côtés à l'heure où je m'endors. Je la retrouve à la même place en ouvrant les yeux. Mais il ne fait pas bon lui dire qu'elle a passé la nuit hors de son lit. Le docteur est plus loin, au même étage. On l'a installé le plus confortablement qu'on a pu. Ceux qui soignent les autres ont l'habitude de se soigner eux-mêmes. Monsieur de Villanera perche je ne sais où, sous le toit. Y a-t-il véritablement un toit ? Nos domestiques grecs et italiens dorment en plein air. C'est la coutume du pays. Mes fenêtres sont exposées au levant et au midi. J'en ai 4. L'air et la lumière ont leurs grandes entrées chez moi dès 9 heures du matin. On me lève, on m'habille et l'on ouvre les fenêtres une à une pour que l'air de la mer ne me surprenne pas brusquement. Vers 10 heures, je descends dans mes jardins. J'en ai 2. L'un au nord de la maison, borné par un mur plus compliqué que la grande muraille de Chine, l'autre au midi, baigné par la mer. Le jardin du nord est planté d'oliviers, de jujubiers et de néfliers du Japon. L'autre est un énorme massif d'orangers, de figuiers, de citronniers, d'aloès, de nopals et de vignes gigantesques qui se fourrent partout, grimpent à tous les arbres et escaladent tous les sommets. Monsieur de Villanera disait hier que la vigne est la chèvre du genre végétal. C'est une belle chose, ma pauvre maman, de courir où l'on veut et d'aller en liberté. Je n'ai jamais connu ce bonheur-là. Mais si je vis... Je commence à me traîner assez gaillardement dans les allées. Elles étaient impraticables il y a 8 jours, car le jardinier du comte d'Andolo est un romantique pur, épris du beau désordre et des grâces chevelues. On a taillé les arbres à coups de faux, ni plus ni moins que dans une forêt vierge. J'ai demandé grâce pour les orangers. Car vous saurez que je suis réconciliée avec l'odeur des fleurs. Il ne faut pas cependant qu'on en mette dans ma chambre. Je ne les souffre qu'en plein air. Le parfum que les fleurs coupées exhalent dans un appartement monte vers mon cerveau comme une odeur de mort, et cela m'attriste. Mais quand les plantes fleurissent au soleil, sous la brise de la mer, je me réjouis avec elles, je m'associe à leur bonheur, et je m'épanouis de compagnie. Comme la terre est belle, comme tout ce qui vit est heureux, et qu'il serait triste de quitter ce monde délicieux que Dieu a créé pour le plaisir de l'homme. Il y a pourtant des gens qui se tuent eux-mêmes, les fous. On disait à Paris que je ne verrais pas pousser les feuilles. Je ne me serais pas consolée de mourir si tôt sans avoir vu le printemps. Elles ont poussé, ces chères petites feuilles d'avril, et je suis encore là pour les voir. Je les touche, je les sens, je les broute, et je leur dis « Me voici encore des vôtres ». Peut-être me sera-t-il donné de voir l'été sous vos ombrages. Si nous devons tomber ensemble, ah, restez longtemps sur ces beaux arbres, attachez-vous solidement à la branche et vivez pour que je vive. Y a-t-il rien de plus gai, de plus vivant, de plus divers que les pousses nouvelles? Elles sont blanches aux peupliers et aux saules, rouges aux grenadiers, blonde comme mes cheveux à la cime des chênes verts, violette au bout des branches du citronnier. De quelle couleur seront-elles dans 6 mois? Ne pensons pas à cela. Les oiseaux font leur nid dans les arbres, la mer bleue chatouille doucement le sable de la rive. Le soleil généreux étale ses beaux rayons d'or sur mes pauvres mains pâles et amaigries. Je sens couler dans mes poumons un air doux et pénétrant comme votre voix, ma bonne mère. Je m'imagine par instant que ce bon soleil, ces arbres en fleurs, ces oiseaux qui chantent, sont autant d'amis qui demandent grâce pour moi et qui ne me laisseront pas mourir. Je voudrais avoir des amis par toute la terre, intéresser la nature entière à mon sort, émouvoir les rochers eux-mêmes, pour qu'au dernier moment, il s'éleva des 4 coins du monde une telle plainte et une telle prière que Dieu en fût touché. Il est bon, il est juste, je ne lui ai jamais désobéi, je n'ai fait de mal à personne. Il ne lui en coûterait pas beaucoup de me laisser vivre avec le reste. Confondu dans la foule des êtres qui respirent. Je tiens si peu de place, et je ne suis pas cher à nourrir. Par malheur, il y a des gens qui porteraient le deuil de ma guérison, et qui ne se consoleraient pas de me voir en vie. Que faire à cela? Ils sont dans leurs droits. J'ai contracté une dette, je dois la payer si je suis honnête fille. Ma chère maman, que pensez-vous de monsieur de Villanera? Comment le juge-t-on à Paris? Est-il possible qu'un homme si simple, si patient et si doux soit un méchant homme? J'ai rencontré ses yeux il y a quelques jours pour la première fois. C'est de beaux yeux, et l'on s'y tromperait aisément. Adieu, ma bonne mère. Priez pour moi, et tâchez d'obtenir que mon père vienne un jour à l'église avec vous. S'il faisait cela pour sa petite Germaine, la conversion serait complète. Et moi, je serai peut-être sauvée. Il doit y avoir une prime là-haut pour ceux qui ramènent une âme à Dieu. Mais qui est-ce qui aura du crédit au ciel, si ce n'est vous, chère sainte? Je suis avec une tendresse infinie votre fille respectueuse, Germaine. Post-scriptum. Les baisers pour mon père sont à droite de la signature, les vôtres sont à gauche. Chapitre 7. Le nouveau domestique. Le duc ne montra pas à madame Chermidy la lettre de la comtesse, mais il lui fit lire celle de Germaine. « Vous voyez, lui dit-il, elle est à moitié sauvée. » Elle s'efforça de sourire et répondit « Vous êtes un homme heureux, tout vous réussit. » « Excepté l'amour. » « Patience, on n'en a guère à mon âge. » Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Et qu'est-ce que ce vieux Gilles qui vous apporte des lettres? Un courrier? Non, c'est un valet de chambre qui demande un remplaçant. Madame de Villanera prie la duchesse de lui trouver un bon domestique. Cela n'est pas facile à Paris. Je parlerai à l'intendant de mon ami Sanglier. Voulez-vous que je vous aide de mon côté? Le tas a toujours une 30 de valets dans sa manche. C'est un vrai bureau de placement. Si le tas a quelque protégé à établir, je veux bien le prendre. Mais songez qu'il nous faut un homme sûr, un infirmier. Le tas doit avoir des infirmiers. Elle a de tout. Le tas était la femme de chambre de madame Chermidy. On ne la voyait jamais au salon, même par surprise. Mais les amis les plus intimes de la maison auraient été flattés de faire sa connaissance. C'était une soubrette du poids de 120 kg, compatriote et tant soit peu cousine de madame Chermidy. Elle s'appelait Honorine Lavenaz, comme sa maîtresse. Aussi avait-on profité de sa difformité pour la surnommer le tas. Ce phénomène vivant, ce monceau de chiffons tremblotants, ce pachyderme féminin avait suivi pendant 15 ans madame Chermidy et sa fortune. Elle avait été la complice de ses progrès, la confidente de ses péchés, la receleuse de ses millions. Assise au coin du feu, comme un monstre familier, elle lisait dans les cartes l'avenir de sa maîtresse. Elle lui promettait la royauté de Paris, comme une sorcière de Shakespeare. Elle relevait son courage, consolait ses chagrins, lui arrachait ses cheveux blancs, et la servait avec une dévotion canine. Elle n'avait rien gagné au service, ni rente sur l'État, ni livrée de la caisse d'épargne, et elle ne voulait rien pour elle. Plus vieille de 10 ans que Madame Chermidy, et obèse jusqu'à l'infirmité, elle était sûre de mourir avant sa maîtresse, et de mourir chez elle. On ne chasse pas un serviteur qui pourrait emporter nos secrets. Au demeurant, le tas n'avait ni ambition, ni cupidité, ni vanité personnelle. Elle vivait dans sa belle cousine. Elle était riche, brillante et triomphante dans la personne de Madame Chermidy. Ces deux femmes, étroitement unies par une amitié de 15 ans, formaient un seul individu. C'était une tête à double face, comme le masque des comédiens antiques. D'un côté, elle souriait à l'amour, de l'autre, elle grimaçait au crime. L'une se montrait parce qu'elle était belle, l'autre se cachait parce qu'elle aurait fait peur. Madame Chermidy promit au duc de songer à son affaire. Le jour même, elle chercha avec le tas quel domestique on pourrait bien envoyer à Corfou. La jolie arlésienne était bien décidée à arrêter en chemin la guérison de Germaine, mais elle avait trop de prudence pour rien entreprendre à ses risques et périls. Elle savait qu'un crime est toujours une maladresse, et sa position était trop belle pour qu'elle voulût la risquer sur un mauvais coup. « Tu as raison, » lui dit le tas. « Pas de crime. Il faut partir de là. Un crime ne profite jamais à son auteur. Il ne sert qu'aux autres. » On tue un riche sur la grande route, et l'on trouve 100 sous dans ses poches. Le reste s'en va aux héritiers. « Mais ici, c'est moi qui hérite !»« De rien si l'on nous prend sur le fait. Écoute-moi. D'abord, elle peut mourir de sa belle mort. Ensuite, si quelqu'un pousse à la roue, il faut que nous n'y soyons pour rien. Comment faire ? Intéresser quelqu'un à la mort de Germaine. Suppose un malade qui dirait à ses domestiques « Mes enfants, soignez-moi bien. Le jour de ma mort, vous aurez tous 1000 francs de rente. » Crois-tu que cet homme-là aurait longtemps à vivre ? Il se trouverait dans le nombre un gaillard intelligent qui exécuterait à sa façon les ordonnances du médecin. On lui donnerait 6 000 francs de rente et les héritiers... Hériteraient, j'entends bien, mais nous n'avons qu'un domestique à choisir. Si nous allions tomber sur un honnête homme. Il y en a donc. Le tas, tu calomnies le genre humain. Il y a beaucoup d'hommes qui ne joueraient pas leur tête pour 1000 francs de rente. Moi, je suis sûr que si nous envoyons là-bas un petit bonhomme comme j'en connais, un pur gamin de Paris, pâle comme une pomme verte, gâté par les autres domestiques, jaloux de ce qu'il sert, envieux du luxe qu'il voit, vicieux comme les égouts, il aurait compris au bout de 15 jours l'avenir qui lui est offert. Peut-être, mais s'il manquait son coup. Alors prends un homme d'expérience, trouve un praticien qui a l'habitude des choses et qui en fasse son état. Tu penses au pays, ma fille. Dame, il y avait de bien jolis sujets à Toulon. Veux-tu que j'aille chercher un domestique au bagne? Il y en a qui ont fait leur temps. Où les trouve-t-on? Cherche-les, on peut bien se donner de la peine pour trouver un homme spécial. » Quelques heures après cet entretien, Madame Chermidy, belle comme la vertu, faisait les honneurs de son salon aux plus honnêtes gens de Paris. Elle comptait au nombre de ses habitués un vieux garçon d'humeur joyeuse, causeur instruit et spirituel, grand liseur de livres nouveaux, grand amateur de premières représentations, grand conteur d'histoires inédites, aussi irréprochable dans ses narrations que châtier dans sa toilette, et fidèle aux traditions de la vieille galanterie française. Il était chef de bureau à la préfecture de police. Madame Chermidy lui porta elle-même une tasse de thé qu'elle sucra d'un sourire ineffable. Elle causa longtemps avec lui, le força d'épuiser son répertoire et prit le plus vif intérêt à tout ce qu'il voulut bien raconter. pour la première fois depuis longtemps, elle fit une injustice à ses autres fidèles et se départit de ses habitudes d'impartialité. L'excellent homme était aux anges et secouait le tabac de son jabot avec une satisfaction visible. Cependant, comme il n'est si bonne compagnie qu'il ne faille quitter, Monsieur Daumet se dirigea discrètement vers la porte à minuit moins quelques minutes. Il y avait encore une vingtaine de personnes dans le salon. Madame Chermidy le rappela tout haut avec la gracieuse effronterie d'une maîtresse de maison qui ne pardonne pas aux déserteurs. « Cher Monsieur Daumet, lui dit-elle, vous avez été trop charmant pour que je vous rende sitôt votre liberté. Venez ici, à côté de moi, et contez-moi encore une de ces histoires que vous contez si bien. » L'excellent homme obéit de bonne grâce, quoiqu'il eût pour principe de se coucher tôt et de se lever matin. Mais il protesta qu'il venait de vider son sac, et qu'à moins d'inventer, il n'avait plus rien à dire. Quelques amis de la maison firent cercle autour de lui pour le taquiner un peu et le tenir sur la sellette. On lui fit mille questions plus indiscrètes les unes que les autres. On lui demanda la vérité sur le masque de fer. On le somma de nommer l'auteur véritable des lettres de Junius, de s'expliquer sur l'anneau de Gigès, la conspiration des poudres, le conseil des dix, et de montrer à l'assemblée un ressort du gouvernement. Il répondit à tout, gaiement, lestement, avec cette bonne humeur des vieillards qui est le fruit d'une vie tranquille. Mais il n'était pas tout à fait à l'aise, et il se démenait dans son fauteuil comme un poisson dans la poêle. Madame Chermidy, toujours bonne, vint à son secours et lui dit « C'est moi qui vous ai livré aux Philistins, il est juste que je vous délivre, mais à une condition. » « J'accepte les yeux fermés, madame. » On dit que presque tous les crimes qui se commettent sont faits par des repris de justice, des forçats libérés. Est-ce le mot ?
Oui, madame.
Eh bien, expliquez-nous ce que c'est qu'un forçat libéré. Le gracieux employé ôta ses lunettes, les essuya du coin de son mouchoir et les replaça sur son nez. Tout ce qui restait dans le salon se réunit autour de lui et s'apprêta à l'entendre. Le duc de la Tour d'Ambleuse s'adossa au manteau de la cheminée sans se douter qu'il assistait au meurtre de sa fille. Les gens du monde ont une curiosité friande et les petits mystères du crime sont un régal de haut goût pour les esprits blasés. « Mon Dieu, madame, dit le chef de bureau. « Si c'est une simple définition que vous demandez, je serai couché de bonne heure. Les forçats libérés sont les hommes qui ont fini leur temps au bagne. Permettez-moi de vous baiser la main et de prendre congé. »«
Comment ? C'est tout ? » ?»«
Absolument. Et notez que je suis l'homme de France qui connaît le mieux les gens dont vous parlez. Je n'en ai pas vu un seul, mais j'ai leur dossier dans mes cartons. Je sais leur passé, leur présent, leur profession, leur résidence, et je pourrais vous les nommer tous par leur nom, prénom, faux nom et sobriquet.
C'est ainsi que César, soit dit sans comparaison, connaissait tous les soldats de son armée.
César, madame, était mieux qu'un grand capitaine. C'était le premier homme de bureau de son siècle.
« Et avait-il des forçats libérés sous la République romaine ?»«
Non, madame. Et bientôt il n'y en aura plus en France. Nous commençons à suivre l'exemple des Anglais, qui ont remplacé le bagne par la transportation. La sécurité publique y gagnera, et la prospérité de nos colonies n'y perdra point. Le bagne était l'école de tous les vices. Les transportés se moralisent par le travail. » »«
Tant pis. Je regrette les forçats libérés. Cela faisait si bien dans les romans du cabinet de lecture. Mais enfin, monsieur Daumet, qu'est-ce que ces gens-là? Que font-ils? Que disent-ils? Où demeurent-ils? Comment sont-ils habillés? Où les trouve-t-on? À quoi peut-on les reconnaître? Ont-ils encore des lettres dans le dos?
Quelques-uns, les doyens de l'ordre. La marque a été supprimée en 1791.
rétabli en 1806 et aboli définitivement par la loi du 28 avril 1832. Un forçat libéré ressemble de tout point à un honnête homme. Il s'habille comme il veut et exerce la profession qu'il a apprise. Malheureusement, ils ont presque tous appris à voler. Mais il y a des braves gens dans le nombre ?
Pas beaucoup. Songez à l'éducation du bagne. D'ailleurs, il leur est assez difficile de gagner honnêtement leur vie.
Et pourquoi donc ?
On sait leurs antécédents, et les patrons n'aiment pas aller prendre chez eux. Leurs camarades d'atelier les méprisent. S'ils ont de l'argent et qu'ils s'établissent à leur compte, ils ne trouvent pas d'ouvriers.
On les reconnaît donc ? À quel signe ?
S'il en venait un ici pour entrer à mon service, comment saurais-je ce qu'il est ?
Il n'y a pas de danger. Le séjour de Paris leur est interdit, parce que la surveillance y serait trop difficile. On leur assigne une résidence en province, dans une petite ville, et la police locale ne les quitte pas des yeux.
Et s'ils venaient à Paris sans votre permission ?
Ils seraient en rupture de ban, et nous les ferions transporter, en vertu d'un décret du 8 décembre 1851.
Mais alors, il n'y a plus personne dans les tapis francs ?
Le conseil municipal du département de la Seine a fait démolir les maisons dont vous parlez. Il n'y a plus ni tanière pour le gibier, ni gibier pour les tanières.
Bonté divine ! Mais nous allons à l'âge d'or !
Monsieur Daumet, vous effeuillez mes illusions une à une. Vous me dépoétisez la vie.
Belle dame, la vie ne manquera jamais de poésie pour ceux qui ont le bonheur de vous voir.
Ce compliment fut décoché avec une telle ampleur de galanterie bourgeoise que toute l'assemblée applaudit. Monsieur Daumier rougit jusqu'au blanc des yeux et regarda les pointes de ses souliers. Mais Madame Chermidy le rappela bientôt à la question.
« Où sont les forçats libérés ? » lui dit-elle.
« Y en a-t-il à Vaugirard ? » ?»«
Non, madame, il n'y en a pas dans le département de la Seine. » »«
Y en a-t-il à Saint-Germain ? » ?»«
Non. » »«
À Compiègne ? » ?»«
Non. » »«
À Corbeil ? » ?»«
Oui. » »«
Combien ? » ?»«
Vous espérez peut-être me prendre en défaut. » »«
J'y compte. » »«
Eh bien, il y en a 4. » »«
Leur nom ? Allons, César. » »«
Rabichon, Le Brasseur, Chassepie et Mantoux. »
Tiens, c'est un verre.
Vous avez deviné du premier coup le secret de ma mnémotechnie.
Redites-nous cela. Rabichon,
Le Brasseur, Chassepie et Mantoux.
Voilà qui est curieux. Maintenant, nous sommes tous aussi savants que vous.
Rabichon, Le Brasseur, Chassepie et Mantoux.
Et que font-ils, ces honnêtes gens-là ?
Les deux premiers sont provisoirement dans une papeterie. Le troisième est jardinier, le quatrième est serrurier en boutique.
Monsieur Daumet, vous êtes un grand homme. Pardonnez-moi d'avoir douté de votre érudition.
Pourvu que vous ne doutiez pas de mon obéissance.
Monsieur Daumet partit. Il était 1 heure du matin, et tous les fidèles de Madame Chermidy se levèrent l'un après l'autre. Ils baisèrent religieusement, comme une patène, cette petite main blanche qui caressait l'espoir d'un crime. En répondant à leurs adieux, la jolie femme répétait entre ses dents le vers mnémotechnique du pauvre monsieur Daumet. Rabichon, Le Brasseur, Chassepie et Mantoux. Le duc sortit le dernier.
« À quoi pensez-vous ? Lui dit-il. « Vous êtes préoccupé. »
« Je pense à Corfou. »
« Songez à vos amis de Paris. »
« Bonsoir, monsieur le duc. Je crois que le tas vous a trouvé un domestique. Elle doit aller au renseignement. Nous en reparlerons un de ces jours. »
Le lendemain, le tas prit le chemin de fer de Corbeil. Elle s'établit à l'Hôtel de France et courut la ville jusqu'au dimanche. Elle visita les papeteries, acheta des fleurs chez tous les jardiniers et se promena beaucoup dans les rues. Le dimanche matin, elle perdit la clé de son sac de voyage. Elle passa chez un petit serrurier de la route d'Essonne qui soufflait sa forge malgré la loi du repos dominical. L'enseigne portait ces mots « Mantoux, peu de chance,
serrurier en tout genre. Le maître du logis était un petit homme de 30 à 35 ans, brun, bien fait, vif et éveillé. On n'avait pas besoin de le regarder deux fois pour deviner à quelle religion il appartenait. Il était de ceux qui font du samedi leur dimanche. L'amour du gain brillait dans ses petits yeux noirs, et son nez ressemblait au bec d'un oiseau de proie. Le tas le pria de venir à l'hôtel pour forcer une serrure. Il s'acquitta de sa besogne en homme expérimenté. Le tas le retint auprès d'elle par les charmes de sa conversation. Elle lui demanda s'il était content des affaires. Il répondit en homme dégoûté de la vie. Rien ne lui avait réussi depuis qu'il était au monde. Il avait servi comme groom et son maître l'avait chassé. Il était entré en apprentissage chez un mécanicien et la susceptibilité de quelques clients lui avait fait un mauvais parti. À 20 ans, il s'était lancé avec quelques amis dans une affaire magnifique, un travail de serrurerie où tous les associés devaient gagner leur fortune. Malgré son zèle et son habileté, il avait échoué honteusement. Et il avait ramé 10 ans sans pouvoir se relever de sa chute. Le nom de « peu de chance » lui était resté depuis ce temps-là. Il était venu s'établir à Corbeil après un long séjour dans le Midi. Les autorités de la ville le connaissaient bien et s'intéressaient à son sort. Il recevait de temps en temps la visite de monsieur le commissaire de police. Cependant, l'ouvrage n'abondait pas chez lui, et peu de maisons lui étaient ouvertes. Le tas compatit à ses chagrins et lui demanda pourquoi il n'allait pas chercher fortune ailleurs. Il répondit mélancoliquement qu'il n'avait ni le goût ni le moyen de voyager. Il était là pour longtemps. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. « Même quand il n'y a rien à brouter ?» dit le tas. Il inclina la tête pour toute réponse. Le tas lui dit « Si je me connais en physionomie, vous êtes un brave homme, comme je suis une bonne fille. Pourquoi ne vous remettez-vous pas en maison, puisque vous avez déjà servi? Moi, je suis en condition à Paris chez une dame seule, qui me traite bien. On pourrait vous trouver une place. » « Je vous remercie de tout mon cœur, » reprit-il, « mais le séjour de Paris m'est défendu. »« Par le médecin ?»« Oui, j'ai la poitrine délicate. »« Justement, la place n'est pas à Paris, c'est hors de France, vers la Turquie, là-bas, dans un pays où l'on guérit les poitrinaires en les mettant chauffées au soleil. »« J'aimerais bien cela, si la maison était bonne, mais il faut bien des choses pour passer la frontière. » De l'argent, des papiers, et je n'ai rien de tout ça. On ne vous laisserait manquer de rien si vous conveniez à madame. Il faudrait venir la voir 1 heure ou 2 à Paris. Ça, c'est possible. Il ne m'arrivera rien. Quand même, je passerai une journée chez vous. Bien sûr. Si l'affaire se faisait, je voudrais prendre un autre nom sur mon passeport. J'en ai assez du mien. Il m'a porté malheur. Et je le laisserai en France avec mes vieux habits. Bah, vous avez raison. C'est ce qui s'appelle faire peau neuve. Je parlerai de vous à madame, et si tout peut s'arranger, je vous écrirai un mot. Le tas revint le soir même à Paris. Mantoue, dit peu de chance, crut avoir rencontré une fée bienfaisante sous l'enveloppe d'une guenon. Les songes les plus dorés vinrent s'asseoir à son chevet. Il rêva qu'il devenait du même coup riche et honnête, et que l'Académie française lui décernait un prix de vertu de 50 000 francs de rente. Il reçut une lettre le lundi soir, rompit son banc et débarqua le mardi matin chez madame Chermidy. Il avait coupé sa barbe et ses cheveux, mais le tas n'eut garde de lui demander pourquoi. La splendeur de la maison l'éblouit. La dignité sévère de madame Chermidy lui imposa sérieusement. La belle scélérate s'était fait un visage de procureur impérial. Elle le fit comparaître devant elle et l'interrogea sur son passé en femme qu'on ne trompe point. Il mentit comme un prospectus et elle eut soin de le croire sur parole. Lorsqu'il eut fourni tous les renseignements désirables, elle lui dit « Mon garçon, la place que je veux vous donner est une place de confiance. Un de mes amis, Monsieur le duc de la Tour d'Embleuse, cherche un domestique pour sa fille qui se meurt en pays étranger. Il y aura de bons gages pendant un an ou deux et 1 200 francs de rente viagère après la mort de la jeune dame. Elle est condamnée par tous les médecins de Paris. Les gages vous seront payés par la famille. Quant à la rente, c'est moi qui en réponds. Comportez-vous en bon serviteur et attendez patiemment la fin. Vous ne perdrez rien pour attendre. » Mantoue jura sur le dieu de ses pères qu'il soignerait la jeune dame comme une sœur et qu'il la forcerait de vivre 100 ans. « C'est bien, » reprit Madame Chermidy. « Vous nous servirez ce soir et je vous présenterai à monsieur le duc de la Tour d'Embleuse. Montrez-vous à lui tel que vous êtes et je réponds qu'il vous prendra. » Elle ajouta en elle-même, « Quoi qu'il arrive, ce coquin verra en moi sa dupe et non pas sa complice. » Mantoue servit à table, non sans avoir pris une bonne leçon de sa protectrice, le tas. Les convives étaient au nombre de 4. Il y avait autant de domestiques pour changer les assiettes, et le serrurier n'eut qu'à regarder faire. Madame Chermidy s'était promis de lui donner, à tout événement, une leçon de toxicologie. Elle ne jugeait pas inutile de lui enseigner l'emploi des poisons, et elle avait choisi ses convives en conséquence. C'était un conseiller à la cour, un professeur de médecine légale et monsieur de la Tour d'Embleuse. Elle amena tout doucement le docteur sur le chapitre des poisons. Les hommes qui professent cette matière délicate sont généralement avares de leur science, mais ils s'oublient quelquefois à table. Tel secret qu'on a soin de cacher au public peut se raconter en confidence lorsqu'on a pour auditoire un magistrat, un grand seigneur et une jolie femme, 5 ou 6 fois millionnaire. Les domestiques ne comptent pas, il est convenu qu'ils n'ont point d'oreilles. Malheureusement pour Madame Chermidy, les poisons arrivèrent avant le vin de champagne. Le docteur fut prudent, badina beaucoup et ne fit pas d'imprudence. Il se retrancha dans les curiosités archéologiques, raconta que la science des poisons n'était pas en progrès, que nous avions égaré les recettes de Locuste, de Lucrèce Borgia, de Catherine de Médicis et de la marquise de Brinvilliers. Il s'apitoya en riant sur ses beaux secrets perdus, pleura le poison foudroyant du jeune Britannicus, les gants parfumés de Jeanne d'Albret, la poudre de succession, et cette liqueur de ménage qui changeait le vin de Chypre en vin de Syracuse. Il n'oublia pas, chemin faisant, le bouquet fatal d'Adrienne le couvreur. Madame Chermidy remarqua que le jeune serrurier écoutait de toutes ses oreilles. « Parlez-nous des poisons modernes, » dit-elle au docteur, « des poisons qu'on emploie de nos jours, des poisons en activité de service. » « Hélas, madame, dit-il, nous sommes tombés bien bas. Le difficile n'est pas de tuer les gens. Un coup de pistolet ferait l'affaire. Il s'agit de les tuer sans laisser de traces. Le poison n'est pas bon à autre chose, et c'est là son seul avantage sur le pistolet. Malheureusement, à mesure qu'il s'invente un toxique nouveau, on découvre un moyen de constater sa présence. » Le démon du bien a les ailes aussi longues que le génie du mal. L'arsenic est un bon ouvrier, mais l'appareil de marche est là pour contrôler l'ouvrage. La nicotine n'est pas une sotte invention. La strychnine est un produit recommandable. Mais, monsieur le conseiller, sait aussi bien que moi que la strychnine et la nicotine ont trouvé leur maître. En outre terme, leur réactif. On a adopté le phosphore avec une apparence de raison. On se disait, le corps humain contient du phosphore en quantité. Si l'analyse chimique en découvre dans le corps de la victime, je répondrai que c'est la nature qui l'y a mis. Nous avons battu ces raisonnements à plate couture. Certes, il n'est pas malaisé de tuer des gens, mais il est presque impossible de le faire impunément. Je pourrais vous indiquer le moyen d'empoisonner 25 personnes à la fois dans une chambre close sans leur donner aucun breuvage. L'expérience ne coûte pas 10 sous, mais l'assassin donnerait sa tête par-dessus le marché. Un chimiste de grand talent vient d'inventer une composition subtile qui a son charme aussi. En brisant le tube qui la contient, on fait tomber les gens comme des mouches. Mais on ne persuade à personne qu'ils ont péri de leur belle mort. « Docteur, » demanda Madame Chermidy, « qu'est-ce que l'acide prussique ?»« L'acide prussique, ou cyanhydrique, madame, est un poison très difficile à fabriquer, impossible à acheter, impossible à conserver pur, même dans les vases noirs. Et il laisse des traces ? Magnifique ! Il teint les gens en bleu, et c'est ainsi qu'on a découvert le bleu de Prusse. Vous vous moquez de nous, docteur ! Vous ne respectez pas ce qu'il y a de plus sacré au monde, la curiosité d'une femme. On m'a parlé d'un poison d'Afrique ou d'Amérique qui tue les hommes dans une piqûre d'épingle. Est-ce une invention des romanciers ? Non, c'est une invention des sauvages. On l'emploie au bout des flèches. Joli poison, madame. Il ne fait pas languir son homme. La foudre en miniature. Le plus curieux de l'affaire, c'est qu'on le mange impunément. Les sauvages l'emploient dans les sauces et dans les combats, à la guerre et à la cuisine. Vous venez de nous dire son nom, mais je ne me rappelle plus. Je ne l'ai pas dit, madame, mais je suis tout prêt à vous l'apprendre. C'est le curare. Il se vend en Afrique, dans les montagnes de la Lune, le marchand est anthropophage. Madame Chermidy en fut pour son dîner. Le docteur garda soigneusement le dépôt terrible que tout médecin porte avec lui. Mais le duc fut touché du recueillement et de l'attention de Mantoue. Il le prit au service de sa fille.